Au cours précédent, vous disiez qu'on ne peut pas contempler philosophiquement sans l'adoration. Mais est-ce que l'on ne peut pas contempler l'ami sans nécessairement adorer par ailleurs le Créateur ? Je ne contemple pas l'ami. Je l'aime. Au sens strict, hein, je parle au point de vue précis. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a une contemplation esthétique de l'ami. J'admire ses beaux yeux, je contemple ses beaux yeux parce que je l'aime. Parce que je l'aime, il a de beaux yeux. Tous les autres voient que... Mais parce que je l'aime, il a de beaux yeux, et c'est ça que je contemple. Ce que disait un vieux père maître. C'est les yeux que l'ami regarde toujours. Alors, c'est vrai, c'est très vrai que il y a une certaine, mais c'est pas alors la contemplation qui nous finalise. L'amour d'amitié finalise parce qu'il exige de nous un don. Alors, que cet amour d'amitié va impliquer une certaine contemplation, je dis une certaine contemplation, un peu comme la contemplation esthétique. La contemplation esthétique n'est pas la contemplation au sens fort. Ça ne finalise pas. Regardez un très beau tableau hein, et laissez-vous prendre par ça. Écoutez une très belle mélodie, merveilleuse. Ça vous détend, ça vous met un peu de baume au cœur, momentanément. Ça vous réchauffe, ça vous élève un peu l'âme. Mais si vous restez uniquement au niveau esthétique... Ça ne finalise pas. Que ce soit un tremplin vers autre chose, oui. La contemplation esthétique peut être un tremplin, mais c'est en ce sens-là qu'elle n'est pas une contemplation. Elle a un mode contemplatif. Le regard contemplatif, le regard esthétique, l'expérience esthétique peut avoir une certaine contemplation esthétique. Ça peut s'achever, mais ce n'est pas la contemplation au sens fort. Elle ne me finalise pas pleinement. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'ami. Il peut y avoir un certain regard contemplatif sur l'ami. « Oh, que tu me reposes hein, !» C'est très agréable de savoir ça. « Tu es mon repos, sans toi, tout est... » Vous voyez tout ce qu'on peut dire, quoi. On voit très bien ce que c'est, ce que ça veut dire. On comprend que ça fait partie de l'amitié. Mais au fond, l'amitié finalise parce qu'il y a un don réciproque. C'est pas la contemplation qui finalise l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que l'amour d'amitié demande de réaliser une œuvre commune. Mais si la contemplation finalisait l'amour d'amitié, il n'y aurait pas d'œuvre. Tandis que l'amour d'amitié ne se trouve parfaitement lui-même que quand il y a une certaine œuvre commune qu'on fait. C'est l'œuvre. Ce n'est pas la contemplation. Et l'amour d'amitié n'est qu'une finalité seconde, elle n'est pas une finalité première. De sorte que la finalité première, protos, comme dit Aristote, hein, ce qui nous donne la vraie béatitude, au point de vue humain, c'est la contemplation du Créateur. Autant que nous pouvons la voir sur terre, selon nos capacités humaines. Il y a une certaine contemplation philosophique qu'il faut maintenir. Je veux dire qu'il faut maintenir, même si nous ne l'avons pas encore beaucoup expérimenté, même si nous n'expérimentons pas du tout, il faut croire que ça peut exister, et que ça a existé. Quand Aristote parle de la contemplation, ça c'est un témoignage, quand Aristote parle de la contemplation philosophique au terme de l'éthique, ce n'est pas une contemplation de croyant. C'est une contemplation philosophique. Et on voit bien, d'après ce qu'il dit, qu'il l'a vécu. Il y a tout un mode expérimental qui nous fait bien comprendre qu'il l'a vécu. Et nous pouvons, nous, dans la mesure où nous faisons un peu de philosophie, Et si nous faisons de la philosophie, c'est quand même un peu pour contempler. Alors cette contemplation, c'est là le problème très délicat, n'est-ce pas ? Parce que c'est évident que la contemplation philosophique est détrônée par la contemplation mystique. Si j'ai un peu de temps, si je suis philosophe et croyant, j'aime mieux contempler au niveau croyant. C'est bien évident. On n'hésite pas une seconde. De sorte que le temps que nous donnons et que nous donnerions normalement à la contemplation philosophique, nous le donnons à la contemplation mystique. Vous voyez, alors c'est ça la chose très délicate, très difficile, de maintenir une philosophie en terre chrétienne. Et pourtant, il faut. Saint Thomas dit les trois sagesses. Et saint Thomas dit la sagesse habitus contemplativus. Donc il met les trois sagesses et il dit que la sagesse philosophique habitus contemplativus. Or, si on a cette habitude de sagesse et qu'on ne l'exerce jamais, à quoi ça sert ? Or, comme il est acquis, il ne peut être acquis que s'il y a un exercice. Alors, vous voyez, là, il y a un dilemme, ça, c'est très vrai, et c'est ce que certains sentent très fort en disant le point de vue de la foi a enlevé à la philosophie sa signification profonde. D'où position de dire, alors, au fond, la philosophie ne sert plus que au niveau logique. Et je crois que ça fait très fort comprendre pourquoi, de fait, très facilement, la philosophie est retombée dans un point de vue logique. On dit, oui, la logique, ça c'est très bien, il faut la logique, ça s'apprend, c'est pas la foi qui va me rendre logique. C'est bien évident. Vous avez des très grands croyants ou de très grandes croyantes qui ne sont pas logiques pour un pouce. C'est sûr. La foi ne me donne pas la logique, comme la foi ne me donne pas la métaphysique. Mais comme la métaphysique est détrônée par rapport à sa contemplation, elle se rabat vers ce qu'elle a encore, son conditionnement humain, c'est-à-dire la logique. Alors, je crois qu'il faut saisir le problème. Il faut saisir le problème parce qu'il existe. Ou bien alors vous tombez dans l'autre position en disant philosophie chrétienne. Vous faites une mixture entre les deux, vous ne savez plus très bien ce que c'est. Mais comme nous avons dit et redit qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne, qu'il y a une éthique chrétienne, ce que nous verrons ensuite, il y a aussi une éthique religieuse qui se termine dans une sagesse contemplative philosophique. Alors, je crois qu'il faut le maintenir, ça. Il faut maintenir, j'en suis sûr du reste, quand je dis je crois, j'en suis sûr, il faut maintenir à tout prix cette sagesse philosophique et cette contemplation philosophique. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour celui qui veut être théologien. Puisque c'est la sagesse philosophique dont la foi se sert pour la théologie. Et la sagesse philosophique ne peut être parfaitement elle-même que si elle est contemplative. Si elle n'est pas contemplative, elle ne peut pas être parfaitement elle-même. Alors, il faut maintenir ça, il faut maintenir cette sagesse philosophique. Alors, pratiquement, c'est très vrai que ayant la possibilité d'une contemplation mystique, nous nous mettons normalement sous la dépendance de l'Esprit Saint. Et donc, il est normal, même si nous faisons des études philosophiques, qu'au moment où nous voulons prier, faire oraison, contempler, nous mettions tout de suite dans l'attitude mystique. Je ne vous ai jamais dit de contempler le temps de l'oraison le matin doit être une contemplation philosophique. Je ne vous dirai jamais ça. J'ai entendu ça de certains dominicains, qu'il faudrait, pour ceux qui sont philosophes, plutôt que la méditation, pas une contemplation philosophique, ce serait bien plus grand, bien plus noble qu'une méditation larvée de sommeil. Non, vous voyez bien. Alors, ce serait bien plus noble, bien une noblesse bien plus grande de voir ce que représente le point de vue de cette contemplation philosophique. Vous comprenez que ce n'est pas juste, ça. En tant que chrétien, dès que nous pouvons, nous contemplons au niveau contemplation mystique, c'est-à-dire nous nous mettons dans l'attitude du croyant qui appelle le secours de l'Esprit Saint. Et nous adorons en croyant une adoration en esprit, en vérité. Et nous adorons avec Jésus et nous demandons tout de suite que Jésus soit là pour nous aider. Donc nous nous mettons tout de suite dans une attitude de contemplation mystique. Ceci n'empêche pas que lorsque nous faisons de la métaphysique, si nous devons en faire, si Dieu nous demande d'en faire, si Dieu nous demande de suivre des cours de métaphysique, Dieu veut que nous fassions de la métaphysique. Si Dieu veut que nous ayons de la métaphysique, nous devons, à certains moments, pousser le plus loin possible le regard métaphysique. Et ça, je crois que nous devons le faire. Et ceci ne supprime pas les temps consacrés à la contemplation mystique, bien évident, c'est en plus. Et c'est une purification de l'intelligence. L'Esprit Saint aime ça. Alors, il ne faut pas que ça remplace l'autre. Mais si nous devons faire des études métaphysiques, il faut que nos études métaphysiques aillent jusqu'au bout. Nous n'avons pas le droit de les tronquer. Oui, c'est un petit peu comme la grâce qui ne supprime pas la nature. C'est un petit peu comme ça. Vous pourriez dire, mais puisque j'ai la grâce, j'ai des vertus infuses, vivons uniquement de nos vertus infuses. Non, il faut acquérir la prudence. Il faut acquérir toutes les vertus. Eh bien, il faut acquérir la vertu des vertus qui est l'habitus de sagesse et de sagesse contemplative. Vous y consacrez moins de temps que si vous n'étiez que philosophe, sans être croyant. Mais le temps que vous consacrez à la contemplation mystique aide prodigieusement la contemplation philosophique. Ça, c'est sûr. Parce que si on vole plus haut, on purifie l'atmosphère intérieure et donc notre intelligence est comme confortée. C'est ce que dit Maritain. Et là, il a raison. Notre intelligence est comme confortée par la foi. Et notre intelligence est comme confortée par le point de vue de la contemplation mystique qui permet à notre intelligence humaine d'arriver plus vite au terme. Ça, c'est sûr. Quand Aristote dit qu'on peut être métaphysicien et contemplatif au niveau philosophique à partir de 45 ans, on l'est plus vite en tant que croyant. Je crois qu'en tant que croyant, quelqu'un qui fait des études métaphysiques avec un désir très profond de les faire, il a très vite un regard contemplatif philosophique. Il l'a beaucoup plus vite parce que la foi nous a été donnée et la contemplation mystique nous a été donnée. Et la contemplation mystique a besoin de la contemplation philosophique, non pas d'une nécessité absolue. Donc, ne demandons pas à toutes les carmélites de faire de la métaphysique. Ce n'est pas absolument nécessaire. Mais si nous devons faire de la métaphysique parce que c'est notre devoir et qu'on nous le demande, alors à ce moment-là, il faut se dire que cette contemplation philosophique va elle-même jouer un certain rôle dans la contemplation mystique. Parce qu'elle va purifier notre intelligence. Mais notre intelligence est purifiée de deux manières, par le haut et par le bas. Alors elle va purifier notre intelligence, elle va empêcher notre intelligence de vagabonder, de partir dans une espèce d'imaginaire. On aura le sens du réalisme. Oui. Et ce sens du réalisme que donne la contemplation philosophique est sûrement un tremplin merveilleux pour la contemplation mystique. Pour purifier l'imaginaire. Un des grands ennemis de la contemplation mystique, c'est l'imaginaire. Ça, c'est bien évident. C'est l'imaginaire qui est l'ennemi numéro un de la contemplation mystique. Si nous essayons de voir dans notre contemplation surnaturelle tous les temps perdus, la plupart du temps c'est l'imaginaire. On sait s'emporter. On est planeur. C'est tellement plus agréable. Pas d'effort à faire. On se laisse porter par le vent d'ouest, ou le vent de l'est, ou le vent du sud, ou le vent du nord. Et puis ça y est. Alors, la contemplation philosophique nous empêche ça. Purification de l'imaginaire, oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a entre l'adoration chrétienne et l'adoration naturelle un rapport un petit peu analogue à celui qu'on trouve entre, à propos des préambules de la foi, entre les préambules en tant que justement une chose par la foi, et en tant qu'on peut les acquérir par l'intelligence. Parce que dans l'adoration chrétienne, on est sous la notion de l'Esprit Saint, mais on regarde aussi Dieu comme créateur. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire que selon un mode qui est plus différent, puisqu'il est divin, on assume ce qu'il y a de plus parfait dans l'acte de contemplation que l'on trouve dans l'acte de l'esprit ?
Oui, on l'assume, mais pas sous le même aspect.
Pas sous le même mode.
Oui, pas sous le même mode. Donc, c'est assumé, c'est pour ça que je dis que c'est purifié, c'est pour ça que je dis que grâce à la contemplation mystique, vous arriverez beaucoup plus vite à la contemplation métaphysique.
Donc on peut dire qu'en fait, il y a un certain amicus contemplatif grâce à l'exercice divin de l'adoration, mais on n'a plus le mode scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas autonome.
Ah, je ne sais pas si on peut dire qu'on acquiert l'habitus. Hein. Je n'oserais pas dire qu'on... La vertu, vous voyez. Prenez pour l'exemple que vous prenez, l'analogie que vous prenez, vous prenez de l'adoration. Vous avez tout de suite la vertu infuse de l'origine. Tout de suite. Dès qu'on arrêtera. Mais vous devez acquérir la vertu acquise d'origine. En faisant des actes d'adoration sous le souffle de l'Esprit Saint, on acquiert, on exerce la vertu infuse et on acquiert progressivement la vertu. Vous voyez, progressivement. Et de temps en temps, il est bon pour nous, parce que quand le Saint-Esprit ne souffle pas, nous faisons des actes volontaires d'adoration. Et ces actes volontaires d'adoration, quand le Saint-Esprit ne souffle pas, si nous n'avons pas la vertu acquise de religion, c'est très difficile. Alors, je crois que vous pourrez dire la même chose en voyant la différence, alors ça serait assez délicat à bien préciser, parce que d'un côté on passe du côté affectif, et de l'autre côté on passe du côté de l'esprit. La différence qui existe entre la vertu de religion comme vertu de religion et puis l'habitus de sagesse. Cette habitus de sagesse est une vertu éminente. C'est la vertu des vertus, d'une certaine manière. On dit ordinairement habitus de sagesse. Hein, c'est très curieux. Ça ne dit pas habitus de sagesse, il ne dit pas vertu de sagesse. Il ne dit pas vertu de sagesse, on vient montrer qu'on est dans un ordre éminent, je crois, alors on vient à la racine. Toute vertu est un habitus. Alors on prend le terme commun, c'est pour exprimer ce qu'il y a de plus élevé. Mais c'est la vertu des vertus. Bon, alors, quelle différence y a-t-il entre cet habitus acquis de sagesse et cet habitus infus de sagesse ? Alors, et nous avons le don du Saint-Esprit. Pose la question. Hein. Exprès. Je fais exprès ça. On va voir. Hein. C'est peut-être pas vrai. Je fais exprès cette chose-là. La vertu de religion, la vertu acquise, la vertu infuse et le don de côté. Au niveau de la coupe profonde, nous avons la vertu acquise de religion, c'est ce que nous étudions maintenant. C'est à partir de là qu'on peut étudier l'éthique religieuse. Nous avons la vertu infuse de religion, dès qu'il y a la grâce. Et même si je n'ai pas la vertu acquise, j'aurai la vertu infuse. Ça vient directement de la grâce. Et la grâce me poussera à exercer des actes de vertu de religion pour que, de fait, ces actes soient sous la mouvance de la vertu infuse, mais il faut acquérir progressivement la vertu acquise en religion. Et la grâce me permettra, par la charité, de me donner immédiatement un exercice nouveau et divin, qui est le don de piété. L'exercice du don de piété, normalement, s'appuie sur l'exercice de la vertu infuse et sur l'exercice de la vertu acquise, et donne un exercice nouveau. Pouvons-nous transposer cette analyse classique? Ça, c'est une analyse classique. Je sais bien, il y a des théologiens qui refusent les vertus infuses. Il y a des théologiens qui ça a toujours été comme ça. Refuser les vertus infuses, d'une certaine manière, c'est... Mais si je me mets dans la perspective de saint Thomas, c'est net. Vertu acquise, vertu infuse, don de piété. Pouvons-nous transposer du côté de la sagesse ce point de vue-là? Je vois ces deux extrêmes. Là, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord. Il y a en nous l'acquisition d'un habitus de sagesse philosophique. Parce que essayons de comprendre maintenant un habitus acquis de sagesse. Ça, je ne peux pas le nier. Je ne dis pas qu'on l'a tous, hein, mais je ne peux pas le nier. Nous tendons à l'avoir si nous faisons des cours de métaphysique. C'est pour acquérir progressivement un habitus acquis de sagesse qui va permettre la contemplation. C'est habitus qui va permettre tous les jugements de sagesse. Toute la métaphysique se termine par un jugement de sagesse. Et le jugement de sagesse implique la contemplation. S'il n'y a pas de contemplation, vous ne pouvez pas porter un jugement de sagesse. Y a-t-il un habitus infus de sagesse? Par la grâce. C'est la théologie. Non, la théologie est un habitus acquis de sagesse. C'est un habitus acquis de sagesse, la théologie. J'acquiers, je deviens théologien. Je deviens progressivement des galons, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Y a-t-il un habitus à la fuite de sagesse?
Je pensais à quelqu'un qui est au 4e siècle qui n'a pas fait de théologie.
Un petit peu. Alors, son directeur de conscience, c'est quoi? Quand on a un directeur de conscience théologien, c'est pour ça que Sainte-Catherine de Sienne est mieux un théologien comme directeur de conscience qu'un saint. Un saint ne peut plus transmettre le don du Saint-Esprit, et ça, c'est un esprit qui transmet. qui m'intéresse de mieux de voir comme directeur de conscience un théologien, parce qu'un théologien, progressivement, lui transmettait un peu de théologie. Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr. Non, ça peut être un chrétien. Très bien, il y a un côté infus de sagesse qui n'est pas le don, ou est-ce que c'est le cerveau sapientiel? Le cerveau sapientiel, c'est l'aspect charismatique du don de sagesse. Et vous pouvez transmettre aux autres. Moi, je dirais Catherine Deuxième, c'est le cerveau sapientiel. Elle a l'expérience mystique par le don de sagesse. Et elle a un don, un charisme, comme Thérèse d'Avila, comme la petite Thérèse. Elle a un cerveau sapientiel qui permet, je ne dirais pas que c'est un habitus de sagesse.
Est-ce qu'entre le cerveau sapientiel qui est au niveau de la communication elle-même,
oui,
et l'expérience théologale de la foi, l'intelligence,
Catherine de Sienne transmet une expérience vécue intérieurement sous le don de l'Esprit Saint.
C'est ça. Mais elle la transmet. Elle le transmet avec des mots qui sont les mêmes que les
mots. C'est le cerveau sapientiel.
Mais le cerveau est uniquement au niveau de la communication. Donc la source de la parole, c'est quand même la connaissance.
L'écriture même. Pas le français.
On peut télescoper l'aspect de la connaissance qui garde la voix du mot.
Ah, mais c'est
énorme. La voix du mot, c'est transmis.
On transmet une expérience, c'est pas une connaissance qui serait distincte de l'expérience, c'est transmettre l'expérience mystique que vous avez. Cette transmission du cerveau sapientiel, c'est de pouvoir communiquer quelque chose qui, normalement, est ineffable. Vous voyez ? Et resterait d'ordre ineffable et qui ferait qu'on a beaucoup de peine à le dire. Et si on peut le dire, c'est le cerveau sapientiel. Donc, je crois que c'est le cerveau sapientiel. Pouvons-nous dire, c'est la question qui demeure, pouvons-nous dire qu'il y a... C'est une question qu'on ne se pose pas habituellement, parce que justement, on n'étudie pas beaucoup le point de vue de la sagesse. Mais pouvons-nous dire qu'il y a un habitus infus de sagesse qui ne serait pas le don du Saint-Esprit, hein, ça c'est sûr, qui ne serait pas non plus la théologie, qui serait la vertu infuse ici, la vertu infuse d'adoration, ça provient de la charité. Or, ici, vous êtes au niveau de la sagesse intellectuelle. Est-ce que vous avez un habitus infus de sagesse? Je ne crois pas. Oui.
De même qu'il y en a un pour la prudence.
Oui, mais oui, parce que c'est là.
Est-ce qu'il ne serait pas, comment dire,
Ça cause à la charité, la prudence. C'est ça qui me semble très clair. Quoi ? Non, la sagesse. Le contenu, ce que nous verrons en essayant de comprendre, qu'est-ce que c'est que la contemplation métaphysique, philosophique. L'amour est présent, mais la structure de la contemplation reste intellectuelle. Tandis que la structure de la prudence et de la vertu de religion est affective. Oui, c'est l'intelligence dans la chose qui donne l'ordre, mais s'il n'y a pas la finalité, vous allez me dire, mais aussi il y a la finalité. Il y a aussi l'amour. Parce que la sagesse va impliquer un lien d'amour et d'intelligence. C'est très difficile de savoir si un habitus infus de sagesse.
Le don ne donne pas le don, donne le mode.
Ah, le don donne le mode, c'est pour ça que le don c'est facile, c'est autre chose.
Alors il s'appuierait sur quoi? Il faut qu'il y ait une
vertu.
Dans ce quoi?
C'est la charité.
Ah, c'est la charité. Le don de l'Esprit Saint, c'est directement la charité. C'est directement la charité. Et ici, c'est non, toujours, tous les dons viennent directement de la charité.
Oui, mais le don donne un mode divin, la contemplation.
Le don d'un amour divin à la contemplation, oui, à l'intérieur même de la charité par la foi. C'est la foi infuse.
C'est par là.
C'est la foi infuse. La foi infuse, vous voyez, c'est pas l'habitus, c'est donc la foi qui est présente et qui me donne ce contact direct avec la vérité divine. Et cette foi informée par la charité va être contemplative. Et l'exercice divin de cette foi va permettre justement la contemplation. C'est ça que je me pose comme question, vous voyez. Je n'ai jamais vu poser. Parce qu'on ne fait pas le parallélisme. On doit le faire, parce qu'on doit faire ce parallélisme. Si on veut vraiment étudier ce que c'est que l'habitus de sagesse, on doit faire ce parallélisme. Je ne crois pas que saint Thomas le traite. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu traiter cette question-là. Une très belle thèse. Y a-t-il un habitus, un fût de sagesse? Je ne crois pas si vous avez déjà vu un écrit là-dessus.
Ce n'est autre que la foi vive.
Quoi? Ah, c'est pas la même chose, c'est ça? Non, et je vois très bien, on va pouvoir, on va d'abord essayer. Garder l'interrogation. Parce qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Hein. Ah oui, des arguments pour, on va le voir. Il y a des arguments pour. Je n'ose pas. Étant donné que c'est quand même cette habitude de sagesse et vertu de sagesse. C'est pas uniquement un habitus intellectuel, c'est vertu de sagesse, on va le voir par rapport à la contemplation. Et donc il y a tout un élément d'amour qui me fait toucher ma faim. Et ça me fait toucher ma faim. C'est normal que la grâce apporte quelque chose qui va me permettre d'atteindre plus immédiatement ma faim. Alors c'est là, on va essayer de comprendre ça parce que c'est... Non. C'est pas uniquement la foi, parce que la foi n'est pas normalement contemplative, elle le sera par la charité.
La foi vive,
elle est contemplative. N'y a-t-il pas la place intermédiaire entre l'habitus de sagesse et la contemplation mystique, un intermédiaire pour une contemplation qui serait infuse, oui, et qui aurait le même objet, en quelque sorte, que celui qui présupposerait la foi, mais dont le contenu serait du côté d'une sagesse acquise, renforcée par le contenu de la foi. On va essayer de comprendre ça. Oui. Pas qu'il y ait une métaphysique infuse.
Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont théologiques, des vérités que le théologien peut acquérir par lui-même, que Dieu peut donner à des âmes.
Oui, Dieu peut donner sûrement. Et Dieu peut donner des lumières métaphysiques infuses. Dieu peut donner des lumières métaphysiques infuses.
À ce moment-là, est-ce qu'on retourne dans le carré?
Ça dépend, c'est pas le charisme. C'est une question qui est très délicate.
Le préambule de la foi, quand on l'a, on n'est pas nécessairement capable de refaire des marches métaphysiques. Donc,
non.
On n'a plus le mode démonstratif, on n'a pas l'autonomie. On a la capacité du jugement. Et donc, c'est en ça qu'il y a une vertu.
C'est une capacité de jugement par rapport au boulot à la fin. Et qui me donne un jugement de sagesse. Et un jugement contemplatif. Et c'est là où on doit se poser la question, parce que c'est pas posé. Et ce sera intéressant, parce que ce que vous dites, là, c'est très vrai, que certains saints n'ayant pas fait du tout, même Catherine de Sienne d'une certaine manière, l'exemple de Catherine de Sienne, il y a des éléments métaphysiques, est-ce que ça relève vraiment uniquement sur vos sapiens et par rapport aux sagesse, ou est-ce que ça présuppose un certain habitus infus de sagesse? Difficile à préciser, mais ça c'est intéressant. C'est intéressant de savoir si ça présuppose
un invitus invitus. Quand on l'a tous rencontré, vous rencontrerez au point de vue prédication, vous rencontrerez des personnes qui n'ont fait aucune métaphysique et qui cependant vous donneront des données dans métaphysique avec une très grande précision. Et qui ne seront pas du tout du don de sagesse. Ce n'est pas uniquement de la foi, c'est autre chose. Ça, j'ai vu plusieurs fois, le père de l'a dit. À ce moment-là, j'aurais dû lui poser la question, je lui ai dit, tu savais plus, ça passe. Y a-t-il ça? Oui, on peut se poser la question. On va se poser la question. Alors, je vais, si vous voulez, avant de répondre, parce que je crois qu'il faut, avant de répondre, bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette habitude de sagesse. Parce que je crois qu'on ne peut répondre vraiment qu'en regardant qu'est-ce que c'est que cette habitude de sagesse et que représente cette contemplation métaphysique. Bon. Cette habitude de sagesse, nous l'avions commencé la dernière fois, je vous disais que, et ça je crois, que l'habitude de sagesse, à la différence de l'analyse métaphysique, il y a une analyse métaphysique. L'analyse métaphysique fait appel au nous et à la science. Et elle lit les deux. L'habitus, la connaissance métaphysique, l'analyse métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus pénétrant dans la vie de l'intelligence et le plus exigeant dans la science, dit par aristotélicien. C'est la science parfaite pour Aristote, la métaphysique. Et donc c'est la science la plus exigeante au point de vue analyse et la plus pénétrante au point de vue de nous. Mais ça ne fait pas appel à l'aspect affectif. Il y a uniquement l'amour de la vérité qui marche. Il y a un très grand amour de la vérité, je ne peux pas au point de métaphysique, parce que c'est fatigant. Donc il y a un amour de la vérité qui me pousse, et cet amour de la vérité me pousse à aller toujours plus loin dans l'ordre de la connaissance métaphysique. S'il n'y a pas cet amour de la vérité, ce n'est pas la peine de commencer des études métaphysiques. On arrête très vite. Pas la peine d'avancer. Tandis que s'il y a un amour de la vérité, on dit qu'il y a vraiment quelque chose que je dois saisir et que je ne saisis pas, il faut cependant faire tous les efforts pour saisir ce que c'est. Au moment où je découvre, où je me pose la question, existe-t-il un être premier? Je vais passer à ce moment-là de l'aspect scientifique de la métaphysique à un aspect sagesse. C'est très intéressant de voir le passage de l'un à l'autre. Alors on passe de la science à la sagesse. Et il y a un passage qui se fait. Dès que je découvre l'existence d'un être premier, je ne suis plus en science. Je suis en sagesse. Quelque chose de pour découvrir le point de vue de l'existence d'un être premier, il faut un amour encore plus grand de la sagesse, un amour encore plus grand de la vérité. Il faut un amour encore plus grand, ça c'est sûr, étant donné que je suis en présence d'un acte de recherche particulièrement difficile. Est-ce que lorsque je recherche l'existence de l'être premier, cet amour qui me pousse va-t-il être ce qui va spécifier mon intelligence? Autrement dit, les fameuses démonstrations a posteriori de l'existence de l'être premier sont-elles d'un caractère purement spéculatif ou impliquent-elles un aspect de connaturalité avec l'être premier? Du coup, l'appétit naturel de l'intelligence, les
vis-à-vis de la vérité et vis-à-vis de la vérité première et de l'être premier. Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser.
La seconde question, c'est savoir, ayant découvert l'existence de l'être premier, l'adoration. Alors, tout immédiatement, on ne peut pas dire que c'est la partie de religion, mais à partir de là. Et la contemplation va apporter encore un élément affectif. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est de comprendre comment, progressivement, dans le développement de la démarche de sagesse, l'amour spirituel de la vérité va s'introduire, non pas seulement pour me pousser de l'extérieur, mais ça va s'introduire pour me rapprocher de celui que j'atteins plus immédiatement par l'amour que par la démarche. Dans quelle mesure et à quel moment la connaissance de la sagesse devient-elle une connaissance affective? Ce que Saint-Augustin dit, ça implique nécessairement une connaissance affective. Alors à quel moment cet élément affectif va-t-il s'introduire, pas seulement pour me pousser, mais comme un élément déterminant? Alors j'ai les trois moments à regarder. Et l'habitus de sagesse implique ces trois éléments. Vous êtes entre toutes les femmes et Jésus.